Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
13h02 en direct sur Sud Radio. Dans un instant, je reçois dans Les Incorrectibles le député Jean Lassalle. A tout de suite, on se retrouve vraiment dans un petit instant.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Nous sommes en direct sur Sud Radio jusqu'à 14h. Alors comme chaque semaine, vous le savez, nous sommes également en live vidéo sur les réseaux sociaux et sur Facebook en particulier. Et puis dès la fin de l'émission, vous le savez également, vous pourrez nous revoir en replay depuis la chaîne YouTube de Sud Radio où vraiment les compteurs explosent. Nous sommes ensemble pour une heure avec un invité plus incorrectible que jamais pour commenter l'actualité particulièrement chargée de la semaine et nous parler de son dernier livre, un véritable manifeste à l'aune de la prochaine élection présidentielle. C'est parti pour Les Incorrectibles.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
Alors, mon invité du jour connaît la politique depuis longtemps. À 21 ans, il est élu maire de son village natal de Lourdios-Ichère dans les Pyrénées-Atlantiques. Il devient l'un des plus jeunes maires de France. En 2002, il décroche un fauteuil de député à l'Assemblée nationale où il siège toujours aujourd'hui. Et il est particulièrement remarqué pour ses interventions dans l'hémicycle lorsqu'il revêt notamment un gilet jaune ou entame le chant des partisans. Il se fait surtout connaître lors d'une grève de la faim en 2006 pour éviter la délocalisation de l'usine japonaise Toyal dans le Béarn. Il est très attaché à la défense des petites communes. Il entreprend un tour de France à pied en 2013 à la rencontre des citoyens. Fervent soutien du MoDem et de François Bayrou, il quitte définitivement le parti en 2016 pour se lancer lui-même dans la course à la présidentielle. Il recueillera à cette occasion 1,21% des voix avec son mouvement Résistons. Et c'est justement en partie le titre de son dernier ouvrage, Aurore ou Crépuscule, Résistons, aux éditions du Cherche Midi. Il est avec nous, je le disais, en direct jusqu'à 14h pour nous exposer sa vision de la société en vue de la prochaine présidentielle de 2022 notamment, mais aussi bien sûr pour nous donner son point de vue sur l'actualité. Jean Lassalle, bonjour.
Bonjour cher Éric Morillo.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, conditions sanitaires obligent, vous n'êtes malheureusement pas avec moi en direct en studio, mais la connexion est bonne et également en vidéo, je le disais, sur les réseaux sociaux. Alors si vous le voulez bien, on va beaucoup de sujets à aborder. On va commencer bien sûr avec le sujet grave du terrorisme. Alors bien sûr, il y a eu cette agression d'un prêtre orthodoxe grec hier, mais pour l'instant, la piste terroriste n'est pas encore confirmé. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte, mais il pourrait aussi également s'agir d'un différent personnel. Mais j'aimerais surtout vous entendre deux semaines après l'attentat de Samuel Paty et puis ce nouvel attentat jeudi dernier à Nice, à la basilique Notre-Dame. Trois victimes tuées, je le rappelle, à l'arme blanche. Une réaction, Jean Lassalle ?
Écoutez, c'est pas une réaction qui différera beaucoup de celles qu'on a pu entendre. Je crois que nous devons rester unis, nous rassembler peut-être plus que nous ne le sommes pour faire face à l'obscurantisme et au crime.
Oui, alors Jean Lassalle, vous dites notamment, je vous cite dans votre livre, que l'un de vos combats, c'est de redonner plus de pouvoir au maire. Récemment, chez nos confrères d'Europe 1, le maire de Nice, Christian Estrosi, disait « Il faut dissoudre rapidement toutes les organisations s'attaquant aux valeurs de la République. Je demande que les maires aient la compétence pour le faire. » Vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir au maire dans cette matière ?
Je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire. Je crois qu'il faut reconstruire un État. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que je me suis inscrit sur une durée un petit peu plus longue. Mais nos compatriotes n'ont pas le sentiment aujourd'hui que l'État les défend réellement. L'État, c'est un symbole et c'est à la fois un outil. Il est à la disposition du peuple souverain qui choisit ceux qui, en leur nom, vont le faire fonctionner. Donc il faut que ce symbole et que cet outil revienne. À ce moment-là, il faut reconstruire ce que nous avons entièrement défait au cours des 15 dernières années, c'est-à-dire l'organisation territoriale, redonner leur place au maire, et c'est, si vous voulez, entre la République au plus haut niveau et la commune au niveau du territoire avec, si vous voulez, le préfet, comme intermédiaire aussi, que nous allons restaurer une relation de confiance qui va nous permettre de lutter ensemble coude à coude.
Alors, on en sait un petit peu plus sur le profil de cet assaillant, hein, de Nice. Il était arrivé en France mercredi 28 octobre, après être rentré en Italie via Lampedusa le 20 septembre dernier, puis il était passé par Bari le 9 octobre. Il était visé par une obligation de quitter le territoire italien avant d'être finalement laissé libre. J'aimerais vous poser une question très précise. Est-ce qu'il y a un problème, selon vous, avec l'immigration? Est-ce qu'on a vraiment les moyens d'intégrer? Vous qui êtes attaché à l'école républicaine, est-ce que on y arrive encore? Est-ce que l'école arrive à garder son rôle de transmission des valeurs républicaines?
Il y a belle lurette qu'elle n'y arrive plus. Et c'est l'un des éléments très cruels et malheureusement fondateurs de la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons renoncé il y a au moins 30 ans, peut-être 40, à prendre ce qui était des faubourgs à l'époque, en charge, qui sont devenus des banlieues où se trouvent beaucoup de nos compatriotes. Lorsque j'ai fait le tour de France, que vous avez eu la gentillesse de rappeler, j'ai rencontré nuitamment, entre 1h et 5h du matin, les 50 banlieues les plus problématiques de notre pays. Mais j'ai pu parler beaucoup. Et je dois dire que je m'attendais à au pire, hein, mais enfin, je n'ai pas été déçu. J'ai entendu des hommes qui étaient souvent des leaders, que je voyais comme des leaders à 25-30 ans, me dire que leur grand-père était au front, à la tête des armées françaises, le père y avait été aussi parfois, et que eux aujourd'hui, il avait qu'une idée en tête, c'était détruire notre civilisation et la France. Et il me disait, nous sommes rejoints par beaucoup d'autres qui sont animés par le même sentiment. Dans le même temps, nous avons entrepris une série de guerres invraisemblables de l'autre côté de la Méditerranée qui ont établi une relation électrique, un arc électrique de part et d'autre dans la Méditerranée. Chaque fois que nous impactons quelque part de l'autre côté de la Méditerranée, cela a une résonance sur notre banlieue, à Paris, à Nice, partout ailleurs. Et ce que nous faisons à l'extérieur n'est pas visible, n'est pas compréhensible, nous a coupé de la plupart de nos amis. Et Dieu sait s'ils étaient nombreux de l'autre côté de la Méditerranée, et cela a une résonance aujourd'hui à Paris.
Alors dans votre livre au chapitre Humanisme et migrants, vous dites notamment, je vous cite, si l'on regarde sereinement la situation, nous sommes bien loin de l'invasion migratoire soutenue par les théoriciens du grand remplacement, la France rendue à elle-même à la place et les moyens d'intégration, retrouvons-nous en tant que nation et nous saurons accueillir et intégrer ces personnes. C'était des propos que vous avez écrits il y a plusieurs mois, vous les maintenez?
Oui, bien sûr.
Vous pensez pas qu'il y a un problème avec l'immigration?
Sauf que la situation étrangère s'est encore amplifiée. Qu'est-ce que vous voulez quand on libère 200 terroristes entre la frontière algérienne et malienne, alors que nous sommes en train de travailler, soi-disant, à traquer ces si dangereux tueurs? Nous en libérons 200 d'un seul coup, en même temps que notre dernière capturée, qui d'ailleurs a une attitude pour le moins étonnante lorsqu'elle est libérée, au point d'obliger le président Macron à renoncer lui-même au prendre la parole. Mais si vous voulez, cela amène des éléments qui, comment je devrais dire, qui accélère le processus de migration. Parce que lorsque la peur s'installe dans ces pays-là, que la France ne peut plus faire entendre sa voix, et en particulier une voix de paix et une voix claire, eh bien, on ne peut pas reprocher à une maman ou à un papa d'essayer de sauver à tout prix ses enfants. Et cela vient télescoper une situation déjà absolument insupportable, quasiment, dans notre pays. Par contre, si notre pays décide de redevenir la nation, la grande nation, animée par le peuple souverain que nous sommes, avec sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si nous décidons de dire la vérité à nos compatriotes, toute la vérité, à ce moment-là, nous avons les moyens de nous reprendre, et ça passe, vous aviez le raison de le dire tout à l'heure, Eric, par la transmission du savoir, par les écoles, et puis ensuite par la restauration du service civique et militaire pour tous les Français et Françaises âgés de 18 ans.
Vous pensez qu'on nous cache des choses en matière de sécurité, Jean Lassalle ?
Ah oui, j'en ai d'intime conviction. C'est-à-dire, on ne nous dit pas grand-chose. Moi, je ne cesse d'interroger le gouvernement ou tous ceux qui pourraient avoir une once de responsabilité pour savoir ce qui s'est vraiment passé. En Libye, d'abord, à partir des années 2007, 2008, 2009, Kadhafi n'était pas un saint, hélas. Mais en fait, quand même, cette zone était stabilisée. Ensuite, qu'est-ce qui nous est arrivé en Syrie ? Alors que la Syrie fait partie de nos amis. J'avais été étonné lorsque j'avais découvert Alep dès 1990, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'avais vu bien plus de mini-jupes d'ailleurs que de voile islamique. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous a pris de nous mettre dans cette situation-là alors que Bachar el-Assad, qui n'est pas non plus, qui n'est pas un saint, avait entrepris un combat pour essayer de garantir l'intégrité de son territoire, de son peuple, face aux mêmes occupants, aux mêmes tueurs. Et nous avons décidé de le laisser tomber.
Alors, si vous le voulez bien, revenons juste à ce sujet en matière de liberté d'expression et bien sûr de cette polémique qui n'en finit pas concernant la publication ou non de ces caricatures. Est-ce que selon vous, Jean Lassalle, Charlie Hebdo a eu raison de republier en une caricature d'Erdogan ?
Quand il y a un moment de tension extrême sur le plan national d'abord, sur le plan mondial ensuite, et pour bien me faire comprendre, relisons ce qui s'est passé en France juste avant et même après que Henri IV, Béarnais lui aussi, y soit passé. Mais la tension était telle entre catholiques et protestants qu'on s'est retué, se verser le sang pour oui, pour non. Est-ce que dans ces cas-là, nous qui nous réclamons de la laïcité, c'est-à-dire qui respectons profondément ceux qui croient au ciel, mais qui pensent que ceux qui n'y croient pas ne doivent pas être gênés par justement le fait de croire. Bien, ceux qui croient à la laïcité, est-ce qu'ils sont, pour l'assumer, obligés de poser des actes qui peuvent indisposer par des populations déjà manipulées et par surtout des minorités, parce que c'est des minorités qui ont été amenées à cette situation par des... par des comportements indignes auxquels nous avons parfois participé nous-mêmes. Alors, il ne s'agit pas de remettre la liberté d'expression en cause, mais moi j'aimerais qu'elle s'exprime à tout niveau. Monsieur le Président de la République aurait pris la parole il y a 10 jours pour dire la décapitation de ce pauvre professeur qui faisait ce travail passionnément pour la République, pour la transmission du savoir, est terrible. Mais il nous est arrivé un avatar terrifiant dont je demande excuses au pays, c'est que nous avons laissé partir 200 tueurs quelque part en Syrie et qu'ils commettront des crimes très rapidement. Ça, c'est une information qui me paraîtrait compréhensible de tous.
Alors, vous dites notamment dans votre livre, vous parliez trois langues à 7 ans, et tout en priorisant, je vous cite, les efforts sur la maîtrise du français, il serait bon que les élèves apprennent deux autres langues, deux langues étrangères, ou l'une étrangère et l'autre régionale. Alors, autant pour la régionale, là, ça ne nous étonne pas, vos propos. Concernant l'étrangère, est-ce que, selon vous, il faut enseigner l'arabe à l'école ?
Alors, j'ai clairement exprimé que pour moi, il n'y avait pas de problème pour entrer en France, sauf peut-être en ce moment, parce que ce n'est pas la peine d'incendier le pays inutilement, parce qu'on ne va pas soulager pour autant les problèmes de l'autre côté de la Méditerranée. Mais je ne demanderai qu'une chose, que l'élève qui se présente soit issu d'une lignée de Gaulois de 5 ou 6 siècles avant Vercingétorix, ou qu'ils soient arrivés nuitamment par la Méditerranée, une seule langue d'apprentissage, le français. On est libre de l'accepter ou pas, mais si on ne l'accepte pas, on s'en va. Nous apprenons à lire, à compter, à écrire, à nous servir de l'ordinateur en français. Lorsque nous maîtrisons cette langue, j'estime que le cerveau de l'enfant étant quasiment une éponge, puisque quelqu'un d'aussi ordinaire que moi a pu apprendre 3 langues, il est bon d'apprendre une langue régionale et 2 langues étrangères, peut-être. Et à ce moment-là, qu'on apprenne l'arabe ne me gêne pas du tout, puisque nous avons beaucoup de compatriotes qui parlent l'arabe, et je préfère qu'ils l'apprennent dans de bonnes conditions. Mais nous sommes en France, qu'on apprenne l'une des plus belles langues du monde, parce que porteuse d'indépendance d'esprit et de liberté, et de paix aussi, apprenons-la de suite, toutes affaires cessantes.
Alors dans ce livre, vous proposez le retour également des arts martiaux à l'école pour, je vous cite, accroître l'assurance des jeunes et leur citoyenneté. Alors là, on est un petit peu étonné, des cours martiaux dans les écoles.
Mais écoutez, est-ce qu'on va continuer à déplorer au nom de je ne sais quoi, l'attaque de tel monsieur, de tel chauffeur de bus, de policier, d'une jeune femme qui rentrait après une séance de cinéma, ce qui devient de plus en plus rare, sans rien faire. Lorsque vous examinez de près, comme je l'ai fait il y a quelques années, parce que ça m'intéressait beaucoup, l'esprit qui porte les arts martiaux, mais ça répondrait parfaitement à quelques-unes de nos préoccupations. Parce que ces arts, d'abord c'est des arts, c'est de l'art, c'est d'être artiste. C'est la capacité de répondre d'une manière appropriée à une agression brutale et violente qui peut vous détruire. Mais vous montrez, vous envoyez un signal très fort à l'autre. Et vous lui montrez que t'amuses pas à ça, parce que ça va te faire mal à toi aussi. Et si on apprend ça dès l'école primaire, c'est une attitude de courage, mais de courage responsable dont nous dotons nos enfants.
Bon, après, je sais pas si le niveau est tout à fait équivalent quand vous êtes agressé par des machettes ou des couteaux. L'art martial, bon, je ne sais pas.
Je suis d'accord, parce que ça évolue, la violence, appelant la violence, et comme il n'y a personne ou pas grand monde pour appeler à un peu de raison, d'un peu de sagesse, un peu de paix, lorsque je vais parler de ça, il n'y avait pas encore trop de machettes, il y avait des agressions. Et je suis d'accord avec vous, mais commençons déjà par déjouer ce qui constitue aujourd'hui. Je suis un peu gêné par l'écho, vous savez, par l'écho, celui qui me revient dans l'oreille.
Oui,
et vous entendez bien. Répondons déjà à ce qui constitue 95% des agressions.
Bon, en tout cas, pour bien être sûr d'avoir compris votre réponse, vous êtes pour la publication des caricatures et pour qu'on les montre là-dessus, vous êtes du même avis,
je vous ai bien
la
dit.
Majorité.
Je veux revenir là-dessus, je vous ai dit là-dessus. Lorsque nous sommes sur un contexte aussi incandescent, et j'ai voulu reprendre l'histoire des protestants et des catholiques, parce que ça s'est passé chez nous. Est-ce que la laïcité oblige à, pour en témoigner, à faire des caricatures dont on sait qu'elles touchent très profondément des êtres qui sont d'ailleurs souvent des minorités, qui ont été enflammés au point de les faire réagir? Et je vous disais dans le même temps, si on fait ça, faisons ensemble, expliquons pourquoi nous avons relâché 200 tueurs criminels, ceux qui ont tué nos derniers soldats au Mali, et disons la vérité, disons tout.
Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques et auteur d'Aurore ou Crépuscule, Résistons, son dernier ouvrage aux éditions du Cherche Midi, et notre invité jusqu'à 14h sur Sud Radio. Restez avec nous, on revient juste dans un instant et on parlera cette fois également de la crise sanitaire et de sa gestion par le gouvernement. À tout de suite.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles, 13h27, nous sommes toujours en direct jusqu'à 14h, en live également sur Facebook, avec notre invité, il s'agit du député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, mais il est aussi auteur de son dernier ouvrage qui s'intitule « Aurore ou Crépuscule, résistons » aux éditions du Cherche Midi, résistons du nom également du mouvement dont il est président. Alors Jean Lassalle, on va parler bien sûr à présent de ce sujet, évidemment, dont on ne cesse de parler, la crise sanitaire et cette gestion par le gouvernement. Alors, juste avant d'en parler, j'aimerais un petit peu, pour resituer le personnage que vous représentez, parce que vous êtes aussi un vrai personnage dans la salle, une vraie personnalité, écoutez ce que vous disiez en réponse à une députée de La République En Marche. C'était il y a seulement 4 jours à l'Assemblée nationale. On écoute.
J'ai marché avant toi, j'ai fait moins de tapage. Et moi, j'ai fait 6000 kilomètres et toi, t'es resté chez toi. Et j'ai mis 9 mois pour marcher. Tandis que l'autre, il a fait 2 fois le tour du salon, il a dit « marche, ça a marché ». Alors, je voulais dire simplement, et l'autre, il n'a même pas tenu à m'inviter ce soir parce que je ne suis rien. Il faut être, si, disons les choses, ou alors tu fais gaffe avant de parler.
Voilà, alors là, votre franc-parler dans Les Incorrectibles, hein, vous êtes l'invité idéal. Alors d'abord, j'aimerais que vous nous rappeliez un peu dans quel contexte vous avez tenu ces propos, et puis vous demandez évidemment si vous vous êtes senti laissé de côté, est-ce qu'on vous a consulté, qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision d'annoncer un reconfinement donc par Emmanuel Macron. Racontez-nous.
Beaucoup de questions, hein. D'abord, permettez-moi, Eric, de vous faire le bonjour de Sarah.
Merci.
Il paraît que nous la connaissons tous parce que nous l'aimons beaucoup. Bien, alors, cette députée m'interrompt, mais d'une manière forte, parce que vous n'allez pas vous mettre à répondre à tous les députés qui sortent des mots, ou parfois même des noms d'oiseaux, quand vous parlez, vous n'en sortiez pas. Mais elle avait une voix qui portait, je l'entendais très bien. C'est pour ça que je lui ai répondu comme je lui ai répondu, parce que ça s'y prêtait très bien. J'avais déjà les boules, comme on dit, parce que j'étais le seul député chef de parti à ne pas avoir été invité à Matignon, par Matignon pour savoir la décision qu'il fallait prendre par le Covid. Il y a beaucoup de présidents de groupes, de partis qui ne sont pas forcément très grands, comme résistants, mais qui sont députés aussi, mais ils y étaient tous. Le seul qui n'y était pas, c'était moi.
Alors comment vous l'expliquez, ça, Jean Lassalle ?
Ah ben, je l'explique un peu comme j'explique mon absence totalement chez l'immense majorité de vos collègues. Pourquoi je ne suis plus invité à France 2 alors que j'ai fait pratiquement toutes les émissions, France Inter, BFM, je veux partout vous passer en revue. Je pense que mon dernier interview au Monde doit remonter à 15 ans, alors que pendant des années, j'ai fait tous les plateaux. Et d'abord, vous êtes très courageux. Je ne sais pas d'où sortez pour ce courage, la suite radio, pour m'inviter de temps en temps, un si dangereux personnage que moi. Non, je pense que...
Non, mais c'est important parce que vous représentez le monde de la ruralité. Vous pensez que ce monde de la ruralité, il est méprisé par le milieu politique et notamment par nos dirigeants?
Si malheureusement, il n'y avait que le monde rural, oui, le monde rural, il n'est pas méprisé, il est totalement abandonné, ignoré. Ils peuvent se pendre en silence dans le matin blême des matins, vous voyez, peu importe. Il n'y a plus de politique agricole, il y a belle lurette, et comme il n'y a plus de politique industrielle, enfin bref, et les artisans et les commerçants, dans quel état ils sont. Mais et je parle aussi des banlieues, et je suis peut-être un de ceux qui les connaît le mieux, bien que je n'y vive pas. Je parle aussi de Paris et de Bordeaux, et je parle de Buenos Aires, et je parle un peu de pratiquement beaucoup de grands pays que je connais à travers le monde, et je connais la situation. Donc, je crois que c'est une expression qu'on empêche de parler. On a estimé que je pouvais être un des troublions pour les prochaines présidentielles. Vous savez que beaucoup d'instituts de sondage, qui appartiennent d'ailleurs tous aux mêmes propriétaires que les grands journaux, la famille Yeniel, vous les connaissez tous les copains, là, tous ceux qui ont fait l'élection de Macron. Eh bien, ils se disent, mais attention, la salle est très populaire, il est connu partout, alors qu'on ne le voit dans aucune télé, on n'entend dans aucune radio, à part Sud Radio, et les chansonniers aussi. Vous savez qui l'invite sur Paris Première. Donc, je pense qu'on a décidé de me mettre totalement à l'écart.
Mais Jean Lassalle, justement, alors parlons concrètement, là, sur le confinement.
Je croyais avoir parlé concrètement.
Oui, mais la question c'était, est-ce que vous étiez aussi d'accord sur cette politique de reconfinement? Alors vous êtes père de rugbyman, il y a un journaliste de Sud Radio qui est spécialiste du rugby ici, qui s'appelle Alexandre Priam, qui me demandait justement de vous interpeller sur justement cet arrêt des compétitions amateurs en rugby. Ça doit vous toucher?
Ça me touche parce que rien que dans ma circonscription, il doit y avoir plus de 100 équipes qui ne peuvent plus jouer, alors qu'elles drainent les seuls moments de joie et d'espoir de la semaine avec les spectateurs qui y vont, et je me demande bien ce qu'ils peuvent risquer. Il n'y a pas de tribune ou peu, ils sont à l'air pur, bon, enfin, peu importe. Pour la question plus large sur la disposition sur le deuxième confinement. Moi, je n'ai eu aucun élément porté à ma connaissance. J'ai eu ceux qui étaient portés par la grande presse, mais ils sont tellement contradictoires du jour au lendemain qu'il est vraiment difficile de se faire une opinion. Je ne disconviens pas du fait qu'il y a certainement une amplification du fléau, mais pour y faire face, il faut être uni et respecter la Constitution. Monsieur le Président de la République annonce très solennellement à la télévision qu'il va, sans m'avoir consulté, et bien d'autres, mais surtout moi, puisque ce n'est pas pour être plus fort que je ne suis, et je sais où je suis, et je ne me mets pas plus haut ni plus bas. Mais le lendemain, il demande aux députés de voter. Mais voter quoi? Il a déjà tout décidé. Il y a l'article 16 de la Constitution pour lui permettre de passer ainsi, puisqu'il veut prendre tout seul. Mais non, là, il a voulu prendre le Parlement et surtout l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel par le peuple souverain, en otage. Et là, il s'affaiblit, parce que pour vaincre le fléau, et ensuite, le deuxième qui suivra, qui sera un véritable fléau économique et social, avec des dizaines de milliers, des centaines peut-être, sans emploi. Et 10 millions de pauvres, nous allons le doubler au moins. Il faut une unité nationale sans faille. Et le président de la République a une mission suprême, c'est de veiller à l'unité et à faire fonctionner la Constitution comme elle doit le faire, comme elle doit être.
Mais alors justement, vous, je rappelais donc ce passage à l'Assemblée nationale où vous le brocardiez, vous pensez qu'il a encore cette légitimité pour parler au nom de cette France que vous considérez comme exclue du débat, je le disais, vous y avez été fort quand même à l'Assemblée cette semaine, vous le disiez, vous avez fait le tour de la France à pied, les politiques y connaissent plus rien au terrain, c'est ça que vous vouliez dire également ?
C'est-à-dire que...
Je vous dis un exemple, là, c'était d'ailleurs oui. Chez nos confrères, je crois, d'RTL, une commerçante témoignait, c'était vendredi, elle disait qu'elle allait entreprendre une grève de la faim, ça vous rappelle des choses sans doute, pour soutenir les petits oui. commerces. Est-ce que vous, par exemple, Jean Lassalle, vous seriez prêt à entamer une grève de la faim pour soutenir les petits commerces dans les lieux reculés de France ?
D'abord, si vous me permettez... L'artiste ne refait jamais deux fois le même numéro. Je l'ai fait une fois et je l'ai mené très très loin. Bon, et j'avais réussi à gagner. Par contre, je comprends, c'est, cela m'a permis, en me retrouvant dans mes derniers retranchements, ce que pouvait engendrer comme désir de résistance d'être acculé. De ne pas avoir de solution. Et je demande simplement à ceux qui voudraient faire une grève de la faim, soyez très attentifs, parce que c'est vous que vous mettez en jeu. Vous êtes à la fois le glaive et la cible, et vous pouvez très bien mourir. Par contre, je sens qu'il y a deux Frances malheureuses qui commencent à se tourner le dos.
Vous pensez qu'il y a un risque de guerre civile ? Allons-y jusqu'au bout.
Je suis trop... J'ai la paix au fond de mon cœur et j'ai une joie intérieure au fond de moi-même depuis que je suis enfant. J'ai vécu beaucoup de moments difficiles comme chacun d'entre nous. Mais je dis que rien ne vaut la paix. Donc je ne dirai pas un seul mot, ni aurai une seule attitude qui pourrait prêter à confusion. Je dis simplement à Monsieur le Président de la République, soyez très attentifs. Les députés font ce qu'ils peuvent, les fonctionnaires font ce qu'ils peuvent, les journalistes font ce qu'ils peuvent, mais ils sont complètement débordés. Ils sont obligés de tenir un discours unique qui n'aurait pas eu à rougir devant la Pravda et le journal soviétique de l'époque. Donc ça ne peut pas marcher. Et ça ne vient même pas d'une inspiration politique. Ça vient d'une inspiration purement financière, c'est-à-dire comme dans les années 30, ou au début du 20e siècle, c'est une infime minorité qui se sont mis à détenir les 9 dixièmes, ou beaucoup plus, des richesses de France et de la planète. Il n'y a plus un sou dans l'espace public. Comment voulez-vous payer une aide-soignante ? Comment voulez-vous augmenter une infirmière ? Rouvrir un hôpital ? Il n'y a pas un sous-vaillant ? Il n'y a rien. C'est ça qu'il faut dire. Et il faut dire que les hommes et les femmes tombent tous les jours de découragement, de fatigue et meurent.
Et justement, alors, ces mots nous touchent d'autant plus que... Je le disais, vous avez votre ouvrage, il y a eu cette polémique, hein, bon, on ne parle même plus des fermetures des bars, des restaurants et de ces petits commerces, mais en matière de culture aussi, ce week-end, il y a eu cette fronde des libraires, et puis là, au final, c'est Amazon, hein, c'est les GAFA, comme on dit, qui vont récupérer la mise.
Mais c'est exactement, cher Eric, ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire que nous ne sommes plus qu'un théâtre d'ombre, nous, les politiques, et que les décisions sont prises à un autre niveau et que le président est obligé de les entériner parce que c'est eux qui l'ont mis sur le trône et qui, par conséquent, pourraient le retirer. Et c'est de cette situation dont il faut sortir parce qu'elle touche aujourd'hui nos jeunes. essayez de trouver un jeune qui trouve un emploi normalement, qui rentre dans la vie, comme j'ai eu la chance d'y rentrer il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. C'est impossible. Essayez de créer une entreprise, vous n'avez pas une banque qui vous prête un euro. Avant d'être crédible auprès de ceux qui pourraient vous faire travailler, il faudrait avoir des siècles d'expérience. Vous n'en avez pas trois jours. Vous avez étudié ou vous n'avez pas étudié. Vous êtes plein de bonne volonté, mais c'est non partout, non, non, non. Ou alors on vous laisse avancer pour un jour vous dire non, vous ne pouvez pas faire ça. Alors, le drame des jeunes est épouvantable.
Vous vous dites que vous voulez que le peuple se réveille et reprenne le pouvoir, notamment par le biais de référendums. Et vous êtes en faveur du RIC, d'ailleurs, vous aviez soutenu hein, les Gilets jaunes. Est-ce que le gouvernement écoute assez les citoyens ou les a écoutés assez pendant cette crise, selon vous ?
Je pourrais vous demander qu'est-ce que vous en pensez, vous, parce que rien qu'en posant la question, je trouve une certaine communion d'idées. Non, il n'a rien écouté du tout. Et je l'ai dit et je l'ai dénoncé chaque fois que j'ai pu le faire. Mais je ne l'ai même pas dénoncé. Et j'ai attiré l'attention gentiment. Parce que je ne suis pas non plus que comme on voudrait le montrer, qu'un agité qui dit n'importe quoi, n'importe comment. J'ai dit attention, mais je le dis depuis 25 ou 30 ans. La dizaine de livres que j'ai commis est là pour en attester. Je n'ai jamais eu de propos violents. Mais maintenant, nous y rentrons de plein pied. Il est encore temps de nous ressaisir. Mais c'est des attitudes totalement différentes. Alors, pour répondre, je pense que la priorité, c'est l'instauration du vote blanc. Parce que le vote blanc, c'est le début d'une forme de révolution pacifique.
Eh bien, Jean Lassalle, on continue d'en parler dans un petit instant. On fait à nouveau une petite coupure. On se retrouve pour la dernière partie, et oui, déjà, des incorrectibles sur Sud Radio. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles pour cette dernière partie de l'émission, toujours en direct sur Sud Radio bien sûr, mais également en vidéo via Facebook. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec notre invité, c'est le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, une vraie personnalité qu'on voit assez rarement dans les médias, mais en tout cas il est toujours le bienvenu sur Sud Radio à l'occasion de la sortie de son ouvrage « Aurore ou crépuscule, résistons » aux éditions du Cherche Midi, du nom également de son mouvement dont il est président, « Résistons ». Alors on parle évidemment de cette crise sanitaire, de ce décalage hein, souvent entre les décisions prises à Paris sans consulter le milieu local, rural. Un petit mot, vous qui regardez en observateur, puisque vous n'êtes pas médecin, mais quand on voit par exemple les déclarations du professeur Raoult à Marseille, quel regard, je serais curieux de savoir, vous portez sur ce professeur qui est aussi, d'une certaine manière, une grande gueule comme vous ?
Écoutez, lui au moins a essayé. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, oui, ça va, je vous entends.
Voilà, ça va. Donc lui, au moins, il a essayé de proposer une solution. Au lieu d'aller jusqu'au bout de ce qu'il proposait, tous les sachants parisiens se sont cru obligés de rejouer un PSG olympique de Marseille. C'est-à-dire, ça vient de Marseille, donc c'est secondaire, ça n'a aucune importance. On lui a même pas laissé le soin de dire comment il avait sauvé quand même quelques centaines de personnes, pour ne pas dire davantage. Et aussitôt, comme le fait suivi en France, la polémique s'est installée pour savoir si c'était sérieux. C'est pas bon là ? Pardon ?
Non, pardon, je parlais à mon réalisateur, mais on va voir si on peut améliorer ça. Allez-y, on vous entend, je vous entends.
Vous m'entendez ? Parce que moi aussi, je suis un peu gêné. Je ne sais pas si je parle dans la vidéo ou pas.
En tout cas, non, on vous entend.
Ah oui, d'accord. Regarde, pourquoi il me met ça, activé ? Voilà. Allô, voyons, là, je me vois bouger.
Voilà, on vous entend beaucoup mieux. Voilà. Merci beaucoup.
Ah, voilà. Parce que j'avais l'impression...
Donc, je vais vous demander votre avis sur le professeur Raoult à Marseille.
Écoutez, le professeur Raoult a contribué beaucoup, au moins à essayer d'avancer dans la connaissance de ce fléau. Grâce à lui, on en a parlé d'une manière différente que la Dolce, c'est-à-dire la voix officielle. Et c'est malheureux qu'on ne lui ait pas laissé les moyens de faire sa démonstration jusqu'au bout. Ça, c'est la France d'aujourd'hui. Nous avons peur de notre ombre, nous avons peur de tout. Et ça, c'est ce qui exaspère une grande partie de notre grand peuple.
Mais vous pensez que lui aussi a été comme vous, victime d'un mépris de la décision de personnes qui sont à Paris ?
Alors, pas qu'à Paris d'ailleurs, parce que ceux qui sont à Paris donnent leur ligne de conduite à ceux qui sont à travers toute la France. C'est pour ça d'ailleurs que c'est dangereux. Tous les mécontents ne sont pas en campagne ou dans une banlieue de province. Vous en avez aussi dans le 16e arrondissement et vous en avez partout. Et c'est cela qui constitue un danger. Non, je crois qu'il faut redevenir à quelque chose de beaucoup plus simple, c'est-à-dire l'esprit de rassemblement de notre pays. Et pour cela, sortir de cet ostracisme, de ce sentiment d'exclure toute voix qui ne va pas dans le sens de ce que l'on entend, et d'arrêter avec ces grands mots de complotisme, de je ne sais quoi. Non, nous sommes tous des hommes et des femmes qui avons été à peu près à la même école républicaine. Nous avons le même amour de notre pays, de l'humanité. Enfin, nous avons passé l'âge de recevoir des leçons à toutes les minutes.
Alors, je le disais, Jean Lassalle, en début d'émission, vous avez annoncé votre candidature en 2022 sous réserve de recueillir les parrainages suffisants. C'est si difficile que ça d'être candidat à la présidentielle ?
Ah oui, c'est vraiment très difficile. Et pour moi, c'est encore pire. J'ai été littéralement assassiné au cours de cette élection, politiquement. Bon, comme j'ai une bonne consistance, vous avez rappelé que j'étais le père de plusieurs rugbymen qui ont reçu une certaine santé, puis sortir de nos montagnes. Vous savez, nous, on trinquait en disant, même pas santé, on l'avait, on trinquait à l'intelligence. Mais enfin, ça, c'est le petit brin d'humour que je peux me permettre dans la grande radio du Sud qui est devenue nationale et internationale. Non, merci. Je pense que si j'ai la santé, si je suis en bon en état, je serai candidat. Je sais que c'est une véritable avalanche qui va s'abattre sur moi. La première a révélé que j'étais un metteur de fesses, de mains aux fesses des dames. Ensuite, que j'étais un très dangereux psychopathe qui pouvait tourner au violeur en série ou au tueur en série. Ça a été tellement loin que même le Crédit Agricole, ma banque depuis que je suis né, celle que mon grand-père faisait 80 km aller, 80 retours pour aller construire à Pau, en se cachant des copains parce qu'ils se moquaient de lui, a refusé de me prier, de me prêter les 800 000 euros auxquels vous avez droit dès que vous avez les signatures. Et pour avoir les signatures, il faut lutter contre les préfets, contre les députés et les sénateurs en place qui découragent les maires en disant « Tu vas quand même pas parrainer Lassalle, Jean Lassalle, mais tu vas ridiculiser ta commune à tout jamais, et puis tes subventions, c'est fini. » Donc voilà, c'est pour vous donner une petite idée du niveau de débat que nous avons et que je vais devoir affronter. Mais je ne veux pas renoncer. J'ai l'âge d'avoir appris un certain nombre de choses. Et si je ne suis pas courageux à mon âge, je ne peux pas demander à mes enfants non plus de tout faire pour prendre leur vie à pleine main.
Alors je disais, vous êtes le président du mouvement Résistons, qui est aussi donc le titre de ce livre. Donc, votre programme, c'est résister à quoi, là, s'il y avait à le résumer ?
D'abord, résister, c'est une question qu'on me pose souvent. Il faut apprendre à résister avant tout changement d'importance. Je l'avais dit à Tsipras.
Vous n'avez pas à résister au confinement, hein, rassurez-nous. Enfin, rassurez-nous, je me fais l'avocat du diable, hein. Je ne donne pas d'opinion. Vous n'appelez pas à résister ou à lutter ou à manifester contre ce confinement.
Non, il a été décidé, je me suis exprimé, j'ai voté contre, je fais partie des 27 députés qui ont voté contre parce que je trouvais que c'était tragique de voir à quel niveau on mettait l'Assemblée nationale, c'est-à-dire voter le lendemain alors que le président avait déjà tout essayé. Donc je n'y reviens pas. Non, mais je ne veux pas la désunion du pays Et c'est un problème qui est beaucoup trop grave pour qu'on joue avec. Il est excessivement maltraité, c'est évident, mais je ne demande pas, je demande à chacun de suivre les règles qui sont mises en place et qui sont édictées. Maintenant, pour revenir au changement qu'il faudrait certainement mettre en route, d'abord, c'est réaffirmer que la France existe. C'est un pays qui a un millénaire, hein, au moins. Elle a autant pesé que les Britanniques à la construction du dernier millénaire. C'est rarement d'accord. Mais malgré tout, nous avons tenu notre rang. Pourquoi, depuis 20 ou 30 ans, avons-nous décidé de sortir de l'histoire et de subir les dictats du monde entier? Là, maintenant, on subit les États-Unis qui ne sont pas beaucoup mieux que nous. J'espère que tout se passera bien à l'issue de leur élection. L'OTAN, où nous sommes obligés de tout dire et de côtoyer ceux qui nous insultent publiquement et qui ont des actes vraiment déplacés à notre égard. La Grande-Bretagne est sortie du Brexit. Nous sommes les seuls à assurer la défense dissuasive de l'Europe, mais nous ne le disons à personne. Ça coûte un argent fou. Nous sommes les seuls à nous être engagés sur la recherche spatiale à un niveau sérieux après avoir perdu d'ailleurs 20 ans de retard. Pris 20 ans de retard. C'est l'écho qui m'empêche de bien me...
Non, on vous entend, on vous entend.
Et alors que nous étions des pionniers. Or, les batailles de demain, comme les victoires, mais surtout la paix de demain, elle doit tourner autour de la dissuasion. Et la dissuasion, il ne suffit pas d'avoir la force nucléaire, il faut avoir aujourd'hui les satellites, il faut avoir la quatrième arme contre la cybercriminalité qui nous permet d'anticiper ce que nos armées ne peuvent pas anticiper aujourd'hui avec les moyens qu'il conviendra d'avoir.
Alors justement, on arrive aux cinq dernières minutes de cette émission, et puisque c'est vrai, vous êtes un petit peu une parole... iconoclaste au milieu de tous ces hommes politiques que l'on voit dans les studios, sur ces plateaux. Est-ce que j'aimerais revenir sur ce côté humain qui est si important que vous êtes un des rares à soulever. Est-ce que ce confinement, il ne permet pas justement un retour au local? On voit une solidarité entre les gens qui retissent des liens, qui reviennent à l'essentiel. Est-ce qu'il n'y a pas, à cette occasion, quelque chose à quand même souligner?
Oui, je pense d'ailleurs que nous ne garderons pas que des mauvais souvenirs de cette période. J'écoute déjà ceux qui ont vécu, et parfois très douloureusement, dans un appartement de 40 mètres carrés, avec deux ou trois enfants en très bas âge. Moi, je ne suis que grand-père actuellement, mais comme Thibaut, professionnel de rugby, nous a fait trois petits-enfants en 3 ans, j'ai une petite idée de ce que ça peut représenter, alors qu'eux ont beaucoup d'espace.
Quand ça y va, chez les Lassalle. Hein.
Comment ?
C'est bien, je dis, ça y va, chez les Lassalle. 3 enfants en 3 ans, mais, vous participez...
Je leur ai dit, j'ai dit à mon fils, tu vas te calmer tout seul. Hein. Tu vas voir, mais enfin, on va voir. Bon, mais ça c'est bien. Mais moi, j'ai un bon souvenir de ce confinement, parce que j'étais dans la campagne. Mais c'était pas toujours facile d'être dans la campagne. Et quand il a fallu faire le choix d'y rester ou pas, comme doivent le faire mes fils aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui vous y pousse, puisque tout est abandonné. Mais le fait de l'avoir fait m'a permis d'évoluer dans une famille qui s'aime, qui pratique l'humanisme, qui chante, et qui travaille aussi. Eh bien, j'ai rencontré des amis à Paris, à Lyon, à Bordeaux, qui ont très mal commencé et qui ont mieux fini. Et je pense qu'actuellement, avec la petite expérience qui a été acquise, ce deuxième confinement n'ira pas si mal que ça.
Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin, une note d'espoir. Donc, merci beaucoup, vraiment, Jean Lassalle, d'avoir répondu à notre invitation dans Les Incorrectibles sur Sud Radio. Donc, je rappelle votre dernier ouvrage, Aurore ou Crépuscule, Résistons, aux éditions du Cherche Midi. Résistons, qui est aussi le nom du mouvement dont vous êtes le président. Et puis, vous nous avez rappelé lors de cette émission que vous seriez donc candidat, sous réserve, bien sûr, d'obtenir les signatures et le financement, donc, pour participer à la prochaine élection présidentielle de 2022. Merci beaucoup également à votre collaboratrice Dalila Berbagui de m'avoir aidé à participer à cette émission. Merci à Maxime Sénat à la réalisation. Merci à Lara Lopez au digital. Toutes nos émissions sont disponibles, je le rappelle, en replay vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio depuis la playlist des Incorrectibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 13h. Je recevrai Michel Onfray à l'occasion de la sortie de son nouveau livre explosif intitulé Vie parallèle, De Gaulle, Mitterrand. Très bonne semaine à tous. À l'écoute de Sud Radio, bien sûr.